notre intuition, l'émission sourcée qui chamboule ce que nous croyons.
Prévoir l'avenir, c'est possible. C'est possible et derrière les pratiques qu'ils permettent, il y a bien plus que ça. Il y a la question fondamentale de comment connaître. Comment sait-on ce qu'on sait? Quelle confiance accordons-nous à notre jugement sur une question? Comment les machines peuvent-elles corriger nos biais? Autant de questions que nous allons effleurer dans cette émission. L'un des outils les plus efficaces pour prédire l'avenir, c'est la probabilité. C'est dû aux deux interprétations qu'on peut en faire. On peut concevoir la notion de probabilité comme exprimant un degré de croyance en quelque chose. 1 exprime alors la certitude que ça arrive et 0 la certitude que ça n'arrive pas. Tout ce qu'il y a entre les deux est une traduction directe mais plus fine des modélisateurs tels que « je suis sûr que »,« je pense que », »,« je crois que ». À titre indicatif, mes échelles personnelles, bien qu'instables, sont « que je crois que » est équivalent à 60%, « je pense que » est équivalent à 80%, et « je suis sûr que » est équivalent à plus de 95%. La façon dont j'estime ça, c'est que je me demande combien je serais prêt à parier sur le fait que ce que je dis est vrai. 60%, ça veut dire que je suis prêt à parier jusqu'à 6 euros contre 4 euros que ce que je dis est vrai. Et la magie des probabilités, c'est qu'elles peuvent aussi être interprétées comme des fréquences. Ainsi, si je disais 100 fois « j'attribue 10% de probabilité au fait que mon chat soit malade », je pourrais savoir si mon degré de confiance était bien ajusté en comptant le nombre de fois que mon chat a effectivement été malade. En l'occurrence, mon degré était plutôt bon si mon chat a effectivement été malade environ 10 fois. Grâce à cet outil, on peut demander aux gens de poser des probabilités sur l'avenir et vérifier leur précision, même si chaque événement n'arrive individuellement qu'une fois. Une des mesures utilisées est ce qu'on appelle le Brier Score, qui est une fonction d'erreur qu'il faut minimiser. Cette fonction sanctionne fortement les excès de confiance et valorise fortement la précision. Doté de ces outils, on peut donc poser des probabilités sur n'importe quelle question fermée de court ou moyen terme. Quelle probabilité que Trump soit réélu? Quelle probabilité que la Chine produise plus de 5 millions de voitures en 2021? Ou enfin la question qui divise les Français, quelle probabilité pour que Ariana Grande fasse un featuring avec Nicki Minaj avant 2022? Et d'ailleurs, c'est ce que permettent les prediction markets, qui sont des sites sur lesquels les gens sont invités à faire des paris sur l'avenir sur toutes sortes de questions. Que cela soit des sites où on parie de l'argent ou non, il s'avère que tous donnent de bons résultats. Il y a même des personnes qu'on nomme les super forecasters, je passe sur mon accent, je suis bilingue, qui lors d'un tournoi au cours duquel ils ont répondu à des centaines de questions géopolitiques, ont été significativement meilleurs que les analystes de la CIA ayant accès à des informations confidentielles. Aujourd'hui, ces super forecasters ont fait l'objet d'un livre très très intéressant écrit par le chercheur Philip Tetlock à l'origine de la branche de la recherche s'intéressant à comment bien prédire. Ce qui en ressort, c'est que dans cette aventure comme dans beaucoup d'autres, ce qu'on pense joue un rôle bien moins important que comment on pense. En effet, beaucoup de ces super forecasters n'ont aucune formation dans la discipline sur laquelle ils font des paris. Comme le décrit Tetlock, ce sont juste de bons bayésiens. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne épistémologie et une capacité énorme à ajuster leurs croyances en fonction de nouvelles informations disponibles. Ils déploient aussi une myriade de stratégies pour affiner leurs croyances, l'une des plus communes étant la division en sous-facteurs. Essayons un peu. D'après vous, quel est le nombre de chômeurs en Ukraine? Si vous êtes humain, a priori, vous ne connaissez pas ce chiffre. Pour l'estimer, ce qu'on peut faire, c'est commencer par estimer la population ukrainienne avec beaucoup d'incertitudes. N'ayant pas une excellente connaissance de l'Ukraine, mon intervalle personnel, c'est 10 millions à 60 millions, avec environ 35 millions d'habitants qui me paraît le plus probable. La population active, c'est probablement la moitié de ça environ, donc disons 18 millions. A priori, mes préjugés sur l'Ukraine me font penser qu'il y a un fort taux de chômage, de 20% disons. Donc ça fait un peu plus de 3 millions de chômeurs. Sans juger ni de mon ignorance de l'Ukraine, ni de ma capacité à parier, j'espère que cet exemple a permis d'incarner un peu mieux la façon dont on peut essayer de diviser une question en plusieurs sous-questions auxquelles on peut facilement répondre. Pour les questions particulièrement complexes engageant des dizaines d'acteurs, d'autres méthodes de prédiction ont été développées. Si les experts seuls ne prédisent souvent pas mieux que des chimpanzés jouant en fléchette sur une cible allant de 0 à 1, comme le suggère Philip Tetlock, leurs savoirs spécifiques sont très valorisables et font la réussite du chercheur Bruce Bueno de la Mesquita. Ce science politicien utilise un modèle de théorie des jeux, une branche de l'économie, dans lequel il insère des données qu'il tire des experts pour prédire le résultat de questions d'envergure mondiale telles que qui sera le prochain président de X pays? L'Iran va-t-il se retirer de l'accord sur le nucléaire? Deux choses sont particulièrement impressionnantes. Son historique de réussite de prédiction est d'environ 90% d'après un analyste de la CIA, ce qui est colossal sur des questions aussi complexes. Et les seules données dont il nourrit son modèle sont les suivantes. Il détermine d'abord qui sont les 40 acteurs ou groupes d'acteurs les plus influents sur la question d'intérêt. Puis, pour chaque acteur, il détermine trois choses seulement sur une échelle de 0 à 100. Quelle position celui-ci défend en privé, l'importance que la question revêt pour cet acteur et son pouvoir d'influence sur les autres. Le plus désespérant dans cette histoire, c'est qu'il ne prend pas en compte ni les traités internationaux, ni les droits de l'homme, ni l'altruisme. Si ce modèle est aussi puissant, c'est qu'il semble qu'en matière de politique, tout se passe comme si chacun défendait juste son intérêt propre. Le plus excitant, en revanche, c'est qu'il semble que la puissance de calcul et l'absence de biais des ordinateurs puissent nous aider à corriger nos biais. En effet, Bruno de la Mesquita justifie partiellement la réussite de son modèle par le fait que nous soyons souvent en excès de confiance et qu'on ne considère pas assez toutes les possibilités. Ainsi, il a souvent fait figure du seul contre tous qui finit par avoir raison. Les conséquences de notre augmentation de capacité de prédiction pourraient être colossales. Pour les gouvernements et les gouvernés, ou encore pour les entreprises, mieux connaître les avenirs possibles peut être d'une importance démesurée. C'est d'ailleurs pour cela que la plupart des grandes entreprises ont souvent des analystes qui sont payés pour faire des scénarios et évaluer la capacité de résistance de ces dernières dans chacun d'entre eux. Néanmoins, jouer aux oracles a aussi ses limites. En effet, si les prédictions faites deviennent connues de tous, nous passons alors dans un système chaotique de second ordre, c'est-à-dire que ce sur quoi on fait des prédictions réagit aux prédictions que nous faisons. L'économie, c'est typiquement un domaine où les prédictions, en influençant les anticipations des agents, sont susceptibles de s'auto-réaliser. Si tout le monde anticipe de la croissance, les gens vont investir, les banques vont prêter, les gens vont consommer, ce qui a de bonnes chances de mener à de la croissance. Les sondages, au contraire, peuvent avoir des effets anti-réalisateurs. Les sondages, en effet, influent sur le comportement des agents en les incitant à ne pas se déplacer pour aller voter si jamais leur candidat est considéré comme vainqueur écrasant, comme dans le cas du Brexit ou de Clinton contre Trump. De fait, ça a rendu leur défaite effective et ça augmente les chances de défaite en général. En conséquence, je dirais qu'outre le caractère fascinant que la capacité à anticiper l'avenir revêt, ce sont les vertus épistémiques qu'elle promeut qui me paraissent particulièrement bénéfiques. Savoir estimer notre degré de confiance en nos jugements, savoir adapter nos croyances en fonction des connaissances dont nous disposons et savoir penser contre nous-mêmes sont autant de capacités que nous pouvons dès aujourd'hui nous entraîner à développer en faisant nos propres paris, que cela soit au quotidien sur des questions aussi diverses que la probabilité que votre coloc se lève avant 9 h, 0, la probabilité que votre train arrive à l'heure, 0, ou la probabilité que le repas végétarien du rue soit le même que la veille, 1, ou sur des sites dédiés que je mets dans la description.